Géopolitique.
Toufik Benaïchouch.
Bonjour, nous connaîtrons le nouveau président américain dans quelques mois, en novembre en fait, mais que ce nouveau président ou nouvelle présidente soit républicain ou démocrate, qu'est-ce qui changera ou ne changera pas en matière de politique étrangère et surtout pourquoi ? C'est entre autres à ces questions que nous allons tenter de répondre avec nos invités. Maya Kandel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la politique étrangère des États-Unis, vous êtes docteur de l'Institut d'études politiques de Paris, vous êtes également diplômée de l'Université de Columbia et vous avez notamment fait paraître aux éditions CNRS en 2013 « Mourir pour Sarajevo, les États-Unis et l'éclatement de la Yougoslavie ». Steven Ekovic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris. Évidemment, vous êtes un spécialiste des États-Unis. Avant toute chose, il est utile, je pense, de rappeler et d'expliquer quels sont à l'origine les fondements de la politique étrangère des États-Unis. Les historiens s'accordent tous à dire qu'au départ, il y a deux fondements de cette politique étrangère, ce qu'ils appellent la doctrine réaliste et puis la doctrine idéaliste. La première, c'est le président Roosevelt qui l'a conçue, qui l'a mise en œuvre. La seconde, c'est le président Wilson. Steven Ekovic, qu'est-ce que le réalisme de Roosevelt, en fait ?
On peut dire que la politique étrangère des États-Unis, c'est une expression de la politique, la culture politique américaine, qui est fondamentalement libérale. C'est un pays, il faut jamais oublier que les États-Unis est un pays libéral, et jamais tenté par d'une façon sérieuse d'un autre genre d'idéologie ou de fondement idéologique. Deuxièmement, c'est un pays aussi transatlantique, maritime, qui partage avec l'Angleterre une longue histoire, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein.
C'était même une des colonies.
Absolument, oui, colonie, mais et un partage de culture politique et aussi d'un certain pragmatisme qui porte sur le monde. Il y avait dans l'histoire du monde deux puissances maritimes libérales, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et donc on peut voir les relations des États-Unis avec le reste du monde dans cette histoire de longue durée. Il faut aussi ajouter que les institutions libérales, démocratiques comptent pour beaucoup. Ce sont des freins qui peut limiter, faire obstacle à toute, disons, lubie d'un démagogue, si vous voulez, ou d'une personne qui veut mobiliser les foules, les peuples. Et d'ailleurs, les constituantes américaines avaient peur du peuple. Ils ont créé un système avec la constitution américaine, justement pour filtrer les passions de la population. Donc, ces trois grandes lignes, il faut jamais oublier, ça nous donne en effet des politiques étrangères qui sont toujours un mélange d'un certain réalisme, pragmatisme, mais aussi un idéalisme qui incarne toutes ces valeurs fondamentales de libéralisme.
Alors, quel est l'apport de Roosevelt, en fait, en matière de politique étrangère?
On dit que c'est Woodrow Wilson qui incarnait d'une façon, disons, éclatante tous ces côtés idéalistes des États-Unis. Et d'ailleurs, quand on dit aux États-Unis qu'un politique étrangère est wilsonienne, c'est un code pour dire que c'est porté plutôt vers tous les idéaux américains, l'idéalisme américain.
On peut résumer ça comme ça. Le monde n'est pas satisfaisant tel qu'il est, donc on va le changer, et c'est là qu'on parle d'idéalisme.
C'est un peuple qui a une mission, d'une certaine façon. Donc, en effet, oui.
Oui. Maya Kandel?
Oui, je dirais même, pour reprendre ce que disait Steven Ekovic, avec l'importance notamment du peuple et ses deux traditions, on peut aussi dire que la politique étrangère américaine est toujours réaliste, mais avec un habillage aussi idéaliste qui est nécessaire pour vendre, en quelque sorte, pour faire accepter la politique étrangère à la population et notamment au Congrès, qui doit la financer. Et l'autre trait, je dirais, qui est important, c'est la notion d'exceptionnalisme américain, qui est une notion essentielle dans l'histoire des États-Unis. Et sans revenir sur les différentes définitions, en politique étrangère, c'est cette idée que les États-Unis sont le seul pays, ou en tout cas le mieux qualifié, pour mener le monde vers la paix et la prospérité globale, disons, pour le dire un peu vite. En tout cas, c'est lié à cette idée de leadership, ce que disent souvent les dirigeants américains, la nation indispensable, cette idée que le leadership américain est indispensable et est bon pour le reste de l'humanité. Je pense que c'est une notion qui est assez, qui est normalement inséparable de la politique étrangère américaine. Et si on arrive à l'élection actuelle, ce qui pour moi est assez frappant, et je pense pas être la seule d'ailleurs, c'est qu'on a en tout cas un candidat, et qui plus est le candidat du Parti républicain, qui est normalement le champion de cette notion d'exceptionnalisme,
Donald Trump,
un candidat républicain qui semble dans ses propos en fait remettre en question cette idée de la qualification unique du leadership américain. Mais on reviendra, je pense, là-dessus.
Oui, bien sûr, on reviendra.
J'ajouterai juste que je crois que les Américaines et même les élites américaines croient sincèrement aux idéaux. Je crois pas que c'est tout simplement un habillage d'une réelle politique. Il y a un vrai mélange de ces motivations dans la politique étrangère des États-Unis. En effet, parfois, on peut trouver que certaines politiques adoptées dans un certain moment sont très réalistes, qui vont avancer vraiment les intérêts des États-Unis, et on peut en effet présenter la poursuite de ces intérêts comme une poursuite des idéaux. Mais je crois qu'il faut pas croire que c'est toujours un habillage. Je crois que les Américains vraiment, sincèrement pensent que si le monde était comme les États-Unis, et c'était l'idée de Wilson, hein, si le reste du monde était libéral, démocratique, qu'est-ce que c'est? Ça serait un monde en prospérité. Et ça serait un monde où les libertés démocratiques régneraient.
Donc il y a deux choses qu'il faut retenir, peut-être Maya Kandel, c'est le monde n'est pas satisfaisant tel qu'il est, et les États-Unis ont pour mission donc de le rendre meilleur en appliquant leurs valeurs, c'est ça ?
C'est du moins effectivement la conviction des élites traditionnelles, disons.
Que l'on soit républicain ou démocrate.
Je pense que c'est quelque chose qui est partagé, en effet, par, en tout cas, ce qu'on appelle l'establishment des deux partis. En revanche, je pense que c'est une notion que Barack Obama a non pas remis en question. Je pense que, contrairement à ce que disaient ses critiques républicaines, c'était pas quelqu'un qui remettait en question l'exceptionnalisme américain. En revanche, il était conscient des limites du pouvoir, de la puissance américaine dans le contexte actuel, du déclin relatif, en fait, de la puissance américaine face à l'évolution des relations internationales et à l'ascension de nouvelles puissances, justement, sur cette scène internationale. Et donc, il a voulu adapter sa politique étrangère à cette nouvelle réalité.
Je crois qu'on peut dire que chaque président porte son propre dosage entre exceptionnalisme et réalisme. Donc, mais il y a toujours les deux quelque part. Donc,
Très bien. Alors, en 89, il se passe un événement considérable. C'est le début de la chute du mur de Berlin. C'est aussi un peu plus tard l'effondrement de l'Empire soviétique. Du coup, les États-Unis n'ont plus véritablement d'ennemis à la hauteur, en fait. Et ils se découvrent être, après un monde bipolaire, être la seule grande puissance de la planète. Là, nous sommes sous l'ère Bush. Comment s'exprime à ce moment-là, alors, dans cette situation particulière, la politique étrangère américaine?
C'était au départ avec le président Clinton, hein, qu'on voulait profiter de cette dividende de la paix, la fin de cette bipolarité, de cette confrontation entre le communisme et le libéralisme. Et en effet, avec l'effondrement de l'Union soviétique, il y avait que debout les États-Unis. Mais maintenant, en effet, avec le rétablissement d'autres centres de pouvoir économique et stratégique et politique, on est dans un monde beaucoup plus complexe. Et là, les Américains sont obligés de faire avec.
Oui, mais en même temps, ils sont obligés d'intervenir, Maya Kandel.
Je crois qu'il y a eu effectivement dans les années 90 une période de désarroi, et je sais, c'était pas Gorbatchev ou quelqu'un de son conseiller qui disait nous allons vous porter un coup terrible, nous allons vous priver d'un ennemi.
Oui.
Et il y a eu vraiment cette une sorte de désarroi stratégique dans les années 90, où dans un sens, pour en tout cas la communauté de défense là-bas, il y avait cette quête d'un ennemi, et effectivement, c'est aussi la décennie 90, ce qu'on a appelé la période des interventions humanitaires, en particulier les interventions dans les Balkans, qui étaient en tout cas conçues aussi comme, je crois que c'était Madeleine Albright qui disait, on a cet outil extraordinaire, il faut qu'on s'en serve. Les militaires américains à l'époque n'étaient pas trop partants pour s'en servir effectivement
pour intervenir
en Bosnie, pour arrêter la guerre en Bosnie. Mais voilà, donc il y avait cette espèce de désarroi qui, en fait, s'est terminé le 11 septembre 2001 avec avec les attentats du 11 septembre, l'attaque contre les États-Unis et l'équipe de Bush fils qui, à ce moment-là, revu toute sa stratégie, sa vision du monde à partir de cet événement.
Mais restons avec Bush père, Stephen Ekovich, si vous voulez bien. À ce moment-là, apparaît un nouveau concept en matière de politique étrangère des États-Unis, le concept d'un nouvel ordre mondial.
C'était un slogan. qui portait à ce moment-là. Mais est-ce que les Américains ont vraiment mis derrière ce slogan des moyens pour vraiment remodeler le monde? Et est-ce qu'il y avait, de toute façon, même si c'était la superpuissance qui restait, est-ce que même étant donné cet état de puissance seule, ils étaient en mesure de vraiment s'imposer au monde? Et je crois pas. Donc, est-ce qu'ils avaient besoin de chercher un ennemi? C'est intéressant de noter ici que très souvent, peut-être presque toujours, les militaires sont plus prudents que les diplomates ou les politiques. Les militaires hésitent d'intervenir, de mettre l'outil militaire en jeu, à risque, et de mettre les vies de ces soldats en risque, tandis que les diplomates qui sont plus loin de ces risques de mort peuvent être moins prudents. Et surtout les politiques qui peuvent décider pour des raisons électorales ou d'autres qu'une intervention militaire, ce serait bien à des fins électorales.
Alors, il y a eu des interventions militaires, notamment en Irak, la première guerre du Golfe. Qu'est-ce qui présidait? Pourquoi les États-Unis sont intervenus?
Ça, c'est une vaste question. Mais juste pour rester avec ces relations avec les militaires, les politiques, les diplomates, les militaires peuvent dire aux politiques, et c'est le cas aussi dans toute démocratie, c'est le cas en France, ce que l'outil militaire est en mesure de faire. Donc il faut toujours conjuguer les buts stratégiques avec les moyens disponibles, et pas seulement les moyens militaires, mais aussi les moyens économiques et les moyens diplomatiques.
Vous écoutez RFI.
Géopolitique. Maya Kandel, dans cette période-là, quelles idées promeuvent les diplomates américains en intervenant, par exemple, au Moyen-Orient?
Vous parlez de la période...
Bush-père. Oui.
Alors, effectivement, là, on est juste au lendemain de la fin de la guerre froide. Il y a cette idée, ce slogan de nouvel ordre mondial, et il y a une certaine inquiétude parce que on voit déjà le délitement de l'Empire soviétique, il y a une inquiétude sur le retour de la guerre en Europe. Et puis, à ce moment-là, Saddam Hussein, donc, envahit le Koweït. Et dans cette idée à ce moment-là, de nouvel ordre mondial, il y a quand même la conviction qu'il vaut mieux maintenir les frontières pour ne pas basculer dans quelque chose de beaucoup plus chaotique,
beaucoup plus
sanglant.
Incertain.
Et en quelque sorte, enfin, le prétexte, en tout cas, pour les Américains, c'est de dire, voilà, Saddam Hussein a violé l'ordre international, il a cherché à annexer un pays
Koweït,
voisin.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, donc début août, le lendemain même, Bush donc fait sous cette déclaration, ou Baker d'ailleurs, je ne sais plus, et il est secondé par le ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev, qui lui aussi intervient pour défendre l'ordre international, donc le respect des frontières.
Et la stabilité, surtout dans la région du Golfe arabo-persique. Et il fallait aussi garantir la fourniture en hydrocarbures, qui était très important à l'époque. Mais la région est importante sur le plan stratégique. Donc la stabilité était fondamentalement la vraie cause de vouloir intervenir, de rétablir un statu quo anti-bellum. Pour maintenir cette stabilité. Et aussi de protéger l'allié de longue date de l'Arabie Saoudite, qui est incontournable dans la région.
Donc là, dans cette période-là, la priorité numéro un des États-Unis, c'est cette région, le Moyen-Orient, c'est l'approvisionnement en pétrole, c'est...
Et l'Europe aussi.
Et l'Europe aussi, bien sûr. Je crois pour les Américains, il y a une tradition géostratégique qui perçoit la planète. Si vous regardez la masse qui va de l'Europe jusqu'à l'Asie, c'est la plus grande île du monde. Et les Américains cernent cette île. Et la politique américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est justement de tenter de garantir une stabilité sur cette grande île et d'empêcher qu'une autre puissance peut prendre le contrôle de cette énorme île qui va du Japon jusqu'à Saint-Malo, si vous voulez. Et ça comprend bien évidemment l'Inde et le Golfe Persique.
Et ceci suppose une suprématie maritime.
Absolument. Et là, on s'insère de nouveau, comme j'ai dit au début, dans toute cette longue histoire anglo-américaine.
Oui. Maya Kandel, Bill Clinton, un démocrate, succédera à George Bush. Si j'ai bien compris, Bill Clinton, il reprend en fait les idées de Wilson, c'est-à-dire c'est un pragmatique, et surtout, son grand comment dire, son grand but, c'est d'étendre le libéralisme à tous les pays possibles. C'est ça, le moteur de sa politique à ce moment-là?
Alors effectivement, je pense qu'on peut résumer la présidence de Bill Clinton comme effectivement tournée vers la mondialisation, l'extension de la libéralisation des échanges. Mais au-delà, je pense qu'il faut aussi replacer la présidence Clinton aussi dans l'histoire du Parti démocrate. Quand Clinton arrive au pouvoir, il est donc le premier démocrate depuis 12 ans. Et il va en quelque sorte réconcilier le parti avec la politique étrangère, c'est-à-dire que le Parti démocrate s'est déchiré dans les années 60 et 70 sur la politique étrangère, notamment, principalement en raison de la guerre du Vietnam, qui est une guerre qui a été décidée, mise en œuvre par des présidents démocrates, mais qui a soulevé un mouvement d'opinion, enfin d'opposition, des manifestations, protestations monstres, qui était avant tout le fait de d'électeurs démocrates, disons-le, bon, rapidement, de la jeunesse bien sûr, mais et c'est un congrès démocrate qui en quelque sorte a mis fin à la, bon je vais très vite, hein, à la guerre du Vietnam, en coupant le financement, même si effectivement Nixon avait décidé aussi de retirer bon les États-Unis du conflit. Et donc on a à partir de là un parti démocrate extrêmement divisé, avec surtout une aile pacifiste, voire même on pourrait dire antimilitariste, extrêmement forte, et qui et que les républicains d'ailleurs vont accuser pendant des années, et même jusqu'à aujourd'hui, hein, dans un sens, de ne pas être suffisamment patriotique à cause, justement, et dans un sens, la candidature Sanders reprend aussi toute cette tradition très antimilitariste qu'on trouve chez une faction du Parti démocrate. Et donc, Bill Clinton, qui arrive comme un nouveau démocrate, avec notamment, d'une part, une politique étrangère très économique, mais aussi cette idée d'intervention humanitaire, va réconcilier donc son parti avec une politique étrangère interventionniste, en tout cas temporairement dans les années 90. Et d'ailleurs, je trouve toujours intéressant de rappeler que, par exemple, Bernie Sanders, qui est sénateur depuis bien longtemps, hein, au Congrès américain...
Donc, qui est membre du Parti démocrate, il faut rappeler à nos auditeurs...
Il est indépendant, mais Bernie Sanders, qui a eu cette campagne très anti-interventionniste, très anti-guerre, anti-intervention, avait voté, par exemple, pour l'intervention au Kosovo en 99. Donc, voilà, je trouve toujours que c'est un élément important à rappeler sur les aspects de politique étrangère des démocrates.
Pour résumer, Bill Clinton arrive au pouvoir et il choisit plutôt d'utiliser le soft power que le hard power, c'est-à-dire beaucoup plus l'influence.
Je vais vous raconter une anecdote qui confirme l'analyse de Maya. Oui. J'étais un délégué à la Convention démocrate de 92, quand Bill Clinton était investi. J'étais d'ailleurs un délégué Clinton. Et il y avait un moment pendant la Convention où on a distribué les drapeaux américains. Et c'était un moment clé, parce que là, c'était les démocrates étaient permis d'exprimer un nationalisme, un patriotisme, en brandissant tout le monde ces drapeaux américains. Et c'était là où se soudait, autour d'un patriotisme et un nationalisme américain, le Parti démocrate.
D'accord. Mais Bill Clinton, son idée, pour aller très vite, c'est plutôt d'avoir recours à la persuasion, à...
Il s'est présenté, je crois que c'est lui qui a dit « Je suis un Wilsonien pragmatique ». Vous voyez, c'est toujours chaque président, chaque candidat est obligé de doser les deux traditions américaines.
Ouais. Il avait parlé, lui, de la démocratie des marchés, non? Ça vous rappelle quelque chose?
Oui, parce que...
Rapidement, ça signifie quoi?
C'est Bill Clinton qui a établi le National Economic Council, hein, parce qu'il voyait que...
Le Conseil National Économique.
Qu'il fallait comme un National Security Advisor, il faut aussi quelqu'un qui conseille la Maison Blanche sur toutes les questions économiques comme une outil de puissance.
Très bien. Eh bien, je vous propose de nous retrouver dans une poignée de minutes, le temps d'écouter un journal.
Géopolitique.
Toufik Benaïchouche.
Nous poursuivons notre débat sur la politique étrangère des États-Unis. Qu'est-ce qui changera dans ce domaine, quel que soit le futur président, qu'il soit démocrate ou républicain? Et nous retrouvons donc nos invités, Maya Kandel et Stephen Ekovitch. Dans les années 2000, les républicains reviennent au pouvoir avec George Bush fils. Ils arrivent au pouvoir avec ceux que l'on désigne les néoconservateurs. Qui peut nous expliquer la pensée des néoconservateurs et leur incidence sur les événements?
Stephen Ekovitch. Je crois peut dire que là, encore une fois, c'est la conjugaison de l'usage de puissance américaine dans les poursuites des idéaux. Pour te faire court, ce dosage n'est pas l'apanage d'un parti ou un autre, hein, parce que là, on voit les républicains qui veulent utiliser tous les outils de puissance américaine, les moyens américains, pour avancer la démocratie libérale dans le monde, en croyant que, encore une fois, on revient à Woodrow Wilson, hein, oui, en pensant que si le monde était libéral, ce serait un monde prospère en paix. Donc pourquoi pas atteler les outils de puissance américaine à cette but-là.
Oui, il y avait vraiment la critique principale de cette aile néoconservatrice du Parti républicain contre Bill Clinton, notamment contre la politique étrangère, c'était de dire finalement la fin de la guerre froide a ouvert une période unique, une période unipolaire, pour reprendre un mot plus français, où les États-Unis étaient la seule hyperpuissance. C'est Hubert Védrine qui avait utilisé ce terme. Et en quelque sorte, les néoconservateurs trouvent que Bill Clinton a gâché ce moment en allant faire des interventions humanitaires, et que ce qu'il aurait fallu, et donc ce qu'il faudrait faire, et c'est là qu'ils vont saisir l'instant, le prétexte des attentats du 11 septembre pour le faire, qu'il fallait saisir ce moment où les États-Unis étaient une puissance sans rivale dans le monde pour, en quelque sorte, mettre en œuvre cet idéal donc qui guide les États-Unis depuis les origines, et essayer de remodeler le monde, et plus précisément, puisque c'est ça qu'on a appelé en fait le projet de Grand Moyen-Orient, démocratiser le Moyen-Orient, donc en commençant par l'Irak. Avec cette idée, cette espèce de théorie des dominos inversée par rapport aux années 60 ou 70, que si l'ensemble de la région, les pays de la région deviennent des démocraties, tout ira mieux.
Le monde serait meilleur.
Ça résoudra toute une série de problèmes.
Alors, pour mettre en œuvre cette politique des néoconservateurs, on a recours à l'axe du mal, Stephen Ekovitch.
Oui, c'était une formule malencontreuse qui était mise dans un discours par George Bush Jr., fils. Mais en fin de compte, les États-Unis n'ont pas mis beaucoup de moyens dans ce nouveau Moyen-Orient. C'était plutôt un effet d'annonce que les États-Unis...
Ah, tout de même, excusez-moi, intervenus en Irak.
L'argent mis pour tout le Moyen-Orient.
D'accord. Que les choses soient claires, oui.
Mais il y avait des interventions militaires, bien évidemment, qui étaient d'envergure, parce que quand même l'établissement militaire américain a beaucoup de moyens. Hein.
Oui.
Et comme disait Madeleine Albright, cet outil est là. Pourquoi pas l'utiliser? Et d'ailleurs, on va revenir peut-être plus tard, Hillary Clinton aussi dit qu'elle est partisane d'une diplomatie coercitive.
Coercitive, oui. Ouais, donc l'usage de la force ne pose pas de problème à partir du moment où on estime qu'on a une mission à accomplir.
Donc on va parler dans un instant, mais si oui. Indifférente entre Hillary Clinton et Barack Obama, on dit que Hillary Clinton hésiterait moins d'utiliser l'outil militaire pour avancer la diplomatie.
Alors venons-en justement à l'actuel président des États-Unis, Barack Obama. Comment qualifieriez-vous sa politique étrangère, Maya Kandel?
Le premier point à souligner, c'est que si la politique étrangère de Bush fils était une réaction au 11 septembre, la politique étrangère d'Obama a été une réaction à cette réaction. D'abord, il y avait une volonté du peuple américain de tourner la page de ces guerres majeures et, on peut le dire, désastreuses, non seulement pour les régions Afghanistan, Irak, Moyen-Orient, mais également pour les États-Unis. Bon, d'abord pour les morts et les blessés, le coût, l'image, l'atteinte au prestige, à l'image des États-Unis, au soft power, à leur capacité d'influence, etc. Donc il y a vraiment chez Obama une volonté de corriger finalement tout cela, et donc une politique qu'on peut qualifier d'une politique de désengagement relatif. Alors les États-Unis se retirent pas du monde sous Obama, bien évidemment, mais il met fin à ces engagements massifs. On avait quand même jusqu'à 180 000 soldats américains
déployés,
essentiellement Irak et Afghanistan, hein, qui sont les deux principaux théâtres pendant les années 2000. Donc Obama n'est pas un pacifiste, c'est pas quelqu'un qui rechigne à utiliser la force, mais pour résumer, il va faire plutôt appel à la CIA et aux forces spéciales, là où Bush avait...
Et les drones.
Et aux drones, bien sûr, évidemment. Donc, un emploi de la force plus ciblé, plus discret, et aussi un accent sur d'autres aspects. Je pense que ça, c'est quand même extrêmement important également, sur... pas seulement l'outil militaire. Il a voulu justement rééquilibrer la politique étrangère américaine, utiliser la diplomatie. Je pense que ce qu'il laissera en héritage, ce sont davantage... Alors, ce sont des paris aussi. Hein. Il faut voir... c'est difficile de faire un bilan pour l'instant. Est-ce que le pari sur l'Iran va s'avérer...
Oui. Alors, on va y revenir. Mais Stephenkovic, Barack Obama a été élu sur la promesse de ramener des soldats à la maison. No more ribbons on the door. On disait aux États-Unis, plus de rubans, c'est-à-dire plus de morts, plus de pertes de soldats américains à l'étranger. Ramener les soldats, mais en même temps, on constate aussi que la guerre, il en a fait usage, et qu'il continue à en faire.
Oui, puisqu'on est dans une élection présidentielle, il ne faut pas perdre de vue que les candidats font souvent des promesses qui ne sont pas vraiment possibles dès qu'ils entrent dans
l'exercice
du pouvoir. Donc ça, c'est le réalisme, encore une fois, qui entre en calcul. Et on a vu déjà, lors de cette conversation aujourd'hui, hein, on a tracé déjà des cycles dans la politique étrangère des États-Unis. Il y a un certain élan d'interventionnisme, il y a un recul, un désengagement, il y a de nouveau une réaction contre cette recul. Et on peut tracer tout le long de l'histoire de la politique étrangère des États-Unis ces flux et reflux du pouvoir américain.
Juste quelques exemples pour qu'on comprenne bien.
Maria vient de vous présenter quelques exemples. Les démocrates, elle a déjà tracé l'histoire, elle est très bien. Les démocrates qui se sont engagés au Vietnam, c'est un républicain qui est retiré, il y avait une réaction... des démocrates après la présidence de Nixon, par exemple. Donc il y a ces cycles qu'on peut très
récurrents.
Oui.
Maya Kandel, vous avez écrit un article fort intéressant. Vous parliez pour Barack Obama de leadership en retrait. Qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Oui, alors ça c'est l'expression en fait qu'il a utilisée. Il a été extrêmement critiqué d'ailleurs aux États-Unis par le monde politique et de politique étrangère. C'est l'expression qu'un conseiller anonyme avait employée au sujet de la Libye. De l'intervention en Libye, puisque finalement, cette intervention, les Américains, de manière relativement inédite, n'ont pas été leaders réellement. Ils ont été un soutien indispensable, mais c'est une opération où les leaders ont été les Français et les Britanniques, en l'occurrence. Obama même était d'ailleurs assez réticent. C'était plutôt Hillary Clinton, d'ailleurs,
qui faisait partie des gens
favorables à cet emploi de la force. Et en fait, c'est une espèce de mode d'intervention qu'on retrouve ailleurs, finalement. Moi, je travaille beaucoup sur l'Afrique, notamment. Et en Afrique, où les Américains sont de plus en plus engagés, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Et ils le font de la même manière, alors on peut dire, par procuration ou en retrait.
Là, on parle du Niger, du Mali.
Voilà, ça va être le soutien à la France en Afrique de l'Ouest, ça va être le soutien à la MISOM, en fait, à Éthiopie, Ouganda, en Somalie.
Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, apparemment, les États-Unis ne sont plus leaders pour intervenir dans ces pays-là, mais quand on regarde le nombre de bombardements ou de frappes des Américains, c'est quand même eux qui ont, à 80%, qui ont participé à la chute de Kadhafi, par exemple, non ?
Vraiment, sur la Libye, les Américains ont mis des moyens de soutien, enfin, ont mis leurs moyens de combat pendant les 10 premiers jours. Ensuite, ils les ont retirés. Ils avaient des drones, ils avaient des avions ravitailleurs, pour devenir un peu technique. Ils donnaient des moyens de renseignement. Voilà.
Mais enfin, ça restait décisif, de toute façon.
Ça a été décisif, mais on ne peut pas dire que ce sont eux qui réalisaient les frappes, etc. Là-dessus, c'était vraiment majoritairement français et britannique. En revanche, dans la coalition internationale actuelle contre l'État islamique en Irak et en Syrie, bien que ce soit une coalition de plus de 25 pays, ce sont effectivement les États-Unis qui assurent l'essentiel des frappes.
Et on va voir à l'avenir la construction des coalitions, parce qu'étant donné la réduction des moyens aux États-Unis, même si le budget militaire américain est mirobolant en dollars, les Américains n'ont pas les moyens de tout mener tout seul, donc ils vont s'appuyer de plus en plus sur les alliés.
Alors, ce leadership en retrait, il est possible grâce à des innovations technologiques, grâce aux drones, vous les évoquiez tout à l'heure.
L'appareil militaire américain est postmoderne. Les pays font la guerre de la même façon qu'ils font leur richesse. Ils appliquent les technologies de pointe qu'on trouve dans nos produits de consommation dans l'outil militaire. Et puisque, il faut le dire, les Américains sont un peuple très créatif, innovatif, leur appareil militaire est toujours en avance de tous les autres, qui donne un certain avantage. Et encore une fois, on va voir, les Américains vont s'appuyer de plus en plus sur les alliés et les amis, et de plus en plus sur leur technologie et leur haute technologie pour tenter de combler cette manque à gagner dans la réduction des moyens financiers.
Maya Kandel, oui.
Oui, non, je voulais juste ajouter le dernier point sur ce leadership en retrait, et je pense que c'est essentiel par rapport à l'héritage, au bilan de Barack Obama en politique étrangère, c'est que finalement, ce bilan va se définir aussi par les interventions qu'il n'a pas voulu faire. Et je pense bien évidemment à la Syrie, et je pense que les principales critiques, en tout cas en France, en Europe et au-delà, contre la politique étrangère d'Obama, porte notamment sur cette décision, ce choix de ne pas intervenir
Alors, il faut juste expliquer à nos auditeurs qu'il y avait une ligne rouge fixée par Barack Obama, d'ailleurs, c'est l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit syrien. Si c'était le cas, disait-il, les États-Unis interviendraient et bombarderaient. Ça a été le cas. Et les États-Unis
oui,
ne sont pas intervenus.
Oui, alors il faut resituer aussi le contexte de cette déclaration. C'était l'été 2012, en pleine campagne pour la réélection de Barack Obama, avec des républicains déjà extrêmement critiques sur le fait qu'Obama n'était pas encore intervenu en Syrie. Non, ce qui a été, je pense, le plus malheureux dans cette affaire ont été les paroles extrêmement fortes d'Obama contre Assad dès 2011, qui n'ont pas été suivis d'action. Et je dirais que c'est sans doute là, effectivement, Stephen Ekovic le disait tout à l'heure, la différence principale entre Barack Obama et Hillary Clinton. D'une part, elle est depuis toujours beaucoup plus interventionniste, mais il y a aussi un constat dans les déclarations, les discours de Hillary Clinton en politique étrangère, qui est que, finalement, Obama a tellement dit qu'il voulait désengager l'Amérique, a tellement dit qu'il ne voulait pas utiliser l'outil militaire, déployer des soldats américains au sol, que les leaders étrangers, le reste du monde, l'a cru sur parole, et qu'en fait, il a perdu une certaine crédibilité de ce fait. Et dans cet aspect beaucoup plus faucon, plus interventionniste de Clinton, il y a cette idée que ce message qu'elle veut faire passer, qu'elle n'hésiterait pas à employer la force.
Et elle était partisane d'intervenir d'une façon militaire en Syrie, et elle n'était pas suivie, Elle a partagé cette idée avec d'autres démocrates à l'époque.
Oui, y compris au sein de l'administration Obama, il y a eu des débats extrêmement vifs.
Alors, on va revenir sur cette opposition des deux candidats et les idées qu'elles défendent, mais Maya Kandel, l'utilisation plus fréquente de mercenaires ou de d'entreprises de sécurité style Blackwater, l'utilisation de l'espionnage quasiment généralisé, c'est ça qui permet de combler le vide à partir du moment où on veut se désengager militairement?
Alors bon, il y a deux choses. Je pense qu'ils ont été pris la main dans le sac, mais bon, je pense que tout le monde le fait. Et le renseignement est effectivement essentiel, en particulier aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme dans laquelle on est nombreux à être engagés. Ça, c'est une tendance qui est depuis...
Mais sur l'espionnage, il y a aussi une question de moyens. Les Américains, ils ont des moyens invraisemblables pour espionner. Donc, encore une fois, l'outil de renseignement aussi utilise les plus récentes technologies développées aux États-Unis. Donc il y a une certaine asymétrie. Et si on attrape les Américains avec la main dans le sac, c'est parce que cet sac est énorme.
Alors, sur effectivement, la privatisation de la guerre, ça, c'est quelque chose qui a commencé sous Bush, cela dit, c'est une tendance relativement ancienne, mais c'est vrai qu'une partie de ce retrait, de ce désengagement de l'armée américaine sous Obama a été rendue possible, en fait, par le recours à tout un soutien privé, des combattants privés. Et je dirais même, pour arriver à aujourd'hui avec Trump, quand Trump dit on protégera pas tel ou tel pays à moins qu'ils payent ce qu'ils nous doivent, on a l'impression que c'est l'armée américaine qui devient une force mercenaire qui peut être vendue au plus offrant.
C'est une façon de cacher la vraie implication américaine dans les opérations militaires, parce qu'on ne compte que des militaires. Mais tout souvent dans les chiffres, on oublie, et délibérément, aussi mettre en compte tous les privés qui sont aussi sur le terrain.
Les entreprises de sécurité.
C'est souvent des anciens militaires américains.
Souvent des anciens militaires américains qui gagnent plus d'argent que leur solde.
C'est vrai que, par exemple, en Irak et en Syrie, il y a eu 3 fois plus de morts, là, sur ces dernières années, 3 ou 4 fois plus de morts de compagnies militaires privées qui sont, en fait, des anciens, comme je disais, des anciens militaires américains, mais qui rentrent pas dans la comptabilité officielle. Ça permet de dire, bon, bah, il y a eu que 2 morts américains.
Voilà. Alors, venons-en maintenant au candidat à la présidence des États-Unis. On commence peut-être par Hillary Clinton. En quoi diverge-t-elle avec la politique de Barack Obama, alors qu'elle fut même son secrétaire d'État à un moment, Stephen Ekovich?
On a déjà évoqué qu'elle est prête à mettre en œuvre une diplomatie plus musclée, d'une façon générale, que Barack Obama. Mm. Mais dans l'ensemble, je crois qu'il y a plutôt une convergence des vues et la poursuite des politiques. Hein. C'était Hillary Clinton, par exemple, qui menait ce qu'on appelle le pivot, ou cet rééquilibrage de la politique américaine vers l'Asie. C'était elle qui était à la tête de cet changement stratégique, par exemple. Mais elle est contre cette partenariat transpacifique, on dit en français Trans-Pacific Partnership.
Oui, l'accord de libre-échange transpacifique.
Et les deux, d'ailleurs, Trump et aussi Clinton, pour des raisons électorales, pour protéger les travailleurs américains qui votent.
D'accord.
Encore une fois, ici, on a des annonces, des campagnes électorales pour récolter des voix, et on peut se demander si Hillary Clinton est élue, si elle va vraiment tenir à cette régie de cet accord transpacifique.
Maya Kandel, que propose cette fois le candidat républicain Donald Trump?
Alors, c'est un peu plus difficile d'identifier les positions de Trump, parce que c'est quelqu'un c'est un populiste, donc il fait beaucoup de promesses qu'il ne respectera pas, et puis le New York Times, par exemple, fait très bien, à chaque fois qu'ils font des interviews, ils donnent non seulement l'article, mais aussi la retranscription complète. Et je recommande la lecture de cela, juste pour se faire soi-même une idée du personnage, de ses propos, et je suis désolée de le dire, mais de l'incohérence tout de même de ses propos, et d'un certain nombre de contradictions qu'il fait dans ce qu'il dit. Le plus frappant, sans revenir sur l'affaire qui est en ce moment sur les hackers russes du Parti démocrate,
qui aurait rendu public 20 000 messages, bon, 20 000 emails.
Voilà, des emails qui auraient été transmis à WikiLeaks, qui les a rendus publics. Mais sans même revenir là-dessus, c'est extrêmement frappant de voir, c'est sans doute la position peut-être la plus tranchée de Trump, qui est une position finalement très pro-russe, très favorable à Poutine, alors même que le candidat républicain et tout le parti républicain depuis plusieurs décennies avait fait vraiment de l'opposition à la Russie sa pierre angulaire, y compris en 2012. Oui. Romney disait la Russie est notre ennemi géopolitique numéro 1. Et à l'époque, d'ailleurs, Obama s'était moqué de lui. Et l'autre aspect, moi, que je trouve le plus frappant sur Trump, c'est que, par exemple, questionné justement la semaine dernière sur le coup d'État manqué et la reprise en main musclée, en Turquie par le Premier ministre Erdogan, il a eu cette phrase extraordinaire, il a dit, mais qui sommes-nous, les Américains, pour donner des leçons, alors que chez nous, il y a des gens qui tuent des policiers de sang-froid, il a ajouté, je crois pas que les États-Unis puissent donner des leçons, ce serait hypocrite. C'est quelque chose qui est pas forcément surprenant, mais qui est absolument inédit dans la bouche d'un Américain et d'un candidat américain.
C'était sa façon de s'esquiver, hein, parce que, je crois que finalement, il n'a pas beaucoup de réponses, il n'a pas beaucoup de connaissances du monde ou de la politique étrangère, donc il débite des généralités très vagues et il se contredit tout le temps. Il peut proposer une politique un jour et la contredire le lendemain. Donc on peut pas dire ici, aujourd'hui quelle sera la politique étrangère de Donald Trump.
Mais très bien, ce sera...
Oui. Même sur la Chine, il dit, ou sur le libre-échange, il dit qu'il est pour le libre-échange, et d'un autre côté, il dit qu'il va renégocier les accords avec la Chine. Enfin,
non. Il dit que la Chine contrôle la Corée du Nord, nous on contrôle les Chines, donc on peut forcer les Chinois de faire plier la Corée du Nord. Et ensuite, il dit que les Chines sont en train de nous voler, donc non, c'est une incohérence populiste débitée par un narcissique qui, on peut demander si, dans quelle mesure il gère la réalité.
Ouais, très bien. Mais ce sera le mot de la fin. Maya Kandel, je vous remercie. Stephen Ekovich, merci infiniment. Merci à Sophia Bédard et à Nathalie Laporte pour la réalisation de ce numéro de Géopolitique.